Deutsche Welle Magazine Santé.
Le 7 novembre 2015, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, une épidémie qui a causé des milliers de morts ainsi qu'une brutale récession économique. Plus d'un an après, nous verrons que les conséquences de la maladie sont toujours présentes. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où les initiatives se multiplient contre le cancer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine santé, c'est Audrey Parmentier au micro. C'était la plus grave épidémie depuis l'identification du virus en 1976. Entre décembre 2013 et novembre 2015, Ebola a fait plus de 11 300 morts en Afrique centrale, un bilan sous-évalué selon l'OMS. Trois pays ont été particulièrement touchés, la Guinée, d'où est partie l'épidémie, le Libéria et la Sierra Leone, où la maladie a fait environ 4000 morts et le pays est encore sous le choc. C'est ce que nous explique Marijke Haase de l'ONG Brood für die Welt, littéralement du pain pour le monde. Elle est spécialiste des politiques internationales de santé et revient sur les conséquences directes de cette épidémie en Sierra Leone.
Tout d'abord, la population et en particulier les familles des victimes doivent se remettre de ce traumatisme. Il y a également un grand nombre de gens qui ont eu Ebola mais qui ont survécu. 15 000 personnes souffrent encore des conséquences du virus. Elles ont des problèmes aux yeux, ont du mal à voir ou sont même devenues aveugles. Elles ont également de grosses douleurs aux articulations. S'ajoute à ces maux physiques la stigmatisation dont ces survivants sont victimes. Pendant l'épidémie, les Sierra Leonais avaient une peur panique d'être contaminés. Tous les contacts corporels, les poignées de main comme les accolades ont été bannis. Certains se sont complètement reclus sur eux-mêmes pendant des semaines, voire des mois. Les malades qui ont survécu ont eu de grosses difficultés en revenant chez eux. Personne ne croyait qu'il était possible de survivre à cette maladie. Et cette stigmatisation est restée. Ces survivants devraient être eux aussi suivis psychologiquement pour surmonter le traumatisme. Mais il y a malheureusement très peu de psychologues ou de psychothérapeutes sur place.
Les survivants ne sont pas non plus ou rarement accompagnés médicalement et ils doivent donc faire avec les syndromes post-Ebola. L'épidémie, qui a duré un an et demi, de mai 2014 à novembre 2015, a également eu des conséquences indirectes. Marijke Haase.
Comme les écoles sont restées fermées pendant près d'un an, les marchés également, que la circulation a été interrompue, les gens ont passé beaucoup de temps chez eux. Ce qui a malheureusement provoqué une augmentation des violences domestiques, des violences sexuelles et des grossesses chez les mineurs qui n'avaient plus l'école comme lieu de refuge. La fermeture des marchés a entraîné une hausse de la pauvreté, car beaucoup de paysans n'ont pas pu vendre leurs produits. Le chômage, et en particulier le chômage des jeunes, a énormément augmenté, ce qui va constituer un grand défi pour les prochaines années. Du fait de la fermeture des marchés, les Sierra Leonais ont également été confrontés à la malnutrition. Autant de conséquences qui vont marquer l'avenir de cette société.
Par ailleurs, Ebola a suscité beaucoup de méfiance de la part des populations. Les gens se sont demandé d'où venait la maladie. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un virus créé par Dieu, d'autres d'une arme biochimique. La méfiance à l'égard des institutions médicales et de leur personnel a elle aussi été décuplée.
Au début de l'épidémie, les dispensaires étaient les lieux où il y avait le plus d'infections, parce que le personnel n'avait pas suffisamment de moyens de désinfecter les lieux, ni de se protéger. Mais surtout parce que les dispensaires n'étaient pas assez nombreux. On ne pouvait donc pas séparer les personnes atteintes d'Ebola des autres. Et puis il y avait un numéro à disposition, le 117, pour signaler tout cas suspect. Quand vous appeliez une équipe de gens habillés en cosmonautes débarquer chez vous, on ne voyait pas leur visage, ils emmenaient le membre de la famille concernée et la plupart du temps, celui-ci ne revenait pas parce qu'il était mort, ce qui a suscité une grande méfiance, une grande peur. Sans compter que les autres médecins, par peur d'être contaminés, refusaient de recevoir les patients, y compris ceux qui souffraient d'autres maladies. Il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu de soins.
Les ONG présentes en Sierra Leone doivent donc reconquérir la confiance de la population et veiller à ce que les mesures d'hygiène soient respectées afin de prévenir une nouvelle épidémie d'Ebola. Il y a désormais la possibilité de se désinfecter les mains en entrant dans les restaurants ou dans les lieux publics. Par ailleurs, les ONG continuent de sillonner le pays pour parler de la maladie, des symptômes et des moyens de contamination. Côté vaccin, les chercheurs canadiens qui ont mis au point le VSV EBOV procèdent en ce moment à des essais cliniques à Ottawa et à Montréal. Une nouvelle phase de test est prévue pour l'an prochain au Burkina Faso et au Sénégal. À présent, on part pour la Côte d'Ivoire où des femmes, journalistes et artistes se sont mobilisées contre le cancer du sein. Le reportage à Dakar de notre correspondant Julien Adaillé.
Comme dans la plupart des pays africains, le cancer est aujourd'hui un gros problème de santé publique en Côte d'Ivoire où le nombre de cancers reste préoccupant. Cela est dû souvent à l'ignorance et au manque d'informations, soutient Agnès Crédy, journaliste et femme engagée dans la lutte contre le cancer.
Je suis la porteuse de cette pathologie. Je me suis dit, dans le parcours de ma prise en charge médicale, j'ai croisé beaucoup de gens et je me suis rendu compte que dans mon pays, on ne parle pas du tout de cancer. Donc, il y a un problème de malinformation, il y a un problème de non-information, il y a un problème d'ignorance qui est terrible autour de cette pathologie qui fait qu'aujourd'hui, le cancer qui est une maladie pernicieuse qui tue en silence, tue encore plus chez nous parce que justement, l'ignorance entoure cette maladie et fait qu'on n'en parle pas du tout. Donc, une exigence d'informer en tant que journaliste. Je suis moi-même le sujet qui est malade.
Le mois dernier, dans le cadre d'Octobre Rose, des femmes journalistes et artistes ont été formées afin de les engager davantage dans la lutte de cette maladie pernicieuse. Au nombre de ces bénéficiaires de cette formation, Marcel Aka, journaliste au quotidien L'Inter.
C'est pourquoi nous, à travers nos écrits, nous appelons les femmes à aller se faire dépister de façon précoce. Parce que quand le cancer est dépisté tôt, il y a des possibilités de guérir de la maladie. Cette l'émergence des maladies non transmissibles est due à nos habitudes alimentaires maintenant et aussi à la sédentarité. Aujourd'hui, il faut faire le sport, il faut manger beaucoup de fruits et puis il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Et c'est le message fort qui a été lancé dans le cadre de cette formation.
Agnès Crédy, qui souffre d'un cancer de sein depuis plusieurs années, a mis sur le marché littéraire un livre intitulé « Tu me fous les boules, vaincre le cancer » pour démystifier la maladie, partager son expérience et surtout informer pour sauver des vies.
Les facteurs sont nombreux, mais en même temps les causes sont inconnues pour le cancer du sein. Comment faisons-nous ? Informer pour qu'il y ait une prévention précoce pour que les femmes puissent justement échapper non pas au cancer, mais échapper à la mort.
Le cancer du sein est le premier cancer en Côte d'Ivoire. Un phénomène qui s'explique notamment par le fait que les cancers sont diagnostiqués très tardivement. La plupart des patients ne vont chez le médecin que lorsqu'ils vont très mal, mais aussi parce que les traitements coûtent souvent très cher. Pour savoir comment identifier le cancer du sein et le traitement qui va avec, nous avons rencontré Dr Kwaku Kwadjo de la polyclinique Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, PISAM.
La première des choses pour une femme, c'est l'autopalpation des seins. C'est quoi l'autopalpation ? C'est-à-dire que c'est la femme elle-même qui palpe ses seins. Et ça doit être régulier pour rechercher quoi ? Tout simplement, une boule. Dès qu'il y a une présence d'une boule, il faut automatiquement que cette personne concernée consulte un gynécologue. La présence d'une boule ne veut pas dire forcément que c'est un cancer. Mais il faut lever le doute rapidement en allant voir le spécialiste qui va ensuite procéder aux examens qu'il faut. Nous faisons les mammographies, nous avons le scanner, nous avons l'histologie et mieux, on a ce qu'on appelle l'examen d'immunohistochimie. C'est une autre étape supérieure de l'examen anatomopathologique. C'est elle-même qui permet de différencier les cellules, permet d'orienter le traitement. Parce que le traitement est couplé avec le type de cellule cancéreuse qui est découvert au niveau de cette tumeur-là. Et à la PISAM, nous faisons la prise en charge médicale, la chimiothérapie. Si ça nécessite un acte chirurgical, nous le faisons également ici. Et nous allons, sous peu, passer à l'autre étape qui est la radiothérapie.
Aujourd'hui, pour une personne atteinte d'un cancer en Côte d'Ivoire et qui souhaite se faire soigner par radiothérapie et non pas par chimiothérapie, sa seule option est malheureusement de le faire à l'étranger. C'est pour remédier à cette insuffisance qu'Éric Djibo, premier responsable de la PISAM, a décidé de se lancer dans la construction d'un centre de radiothérapie au sein de sa clinique. Une grande première chez le plus grand producteur mondial de cacao.
La prise en charge du cancer du sein qui malheureusement touche des patientes de plus en plus jeunes. Et donc, il est important que l'on ait une réponse collective, une réponse publique et privée face à ce fléau-là. Et donc, nous, à la PISAM, nous envisageons de commencer les travaux assez rapidement pour l'ouverture d'un centre de radiothérapie avec des accélérateurs nucléaires qui vont utiliser une technologie qu'on appelle la technologie VMAT, qui est une technologie à diffusion d'ondes variables qui favorise la sauvegarde des organes sains parce que ça fait en sorte que les ondes, dès qu'elles arrivent vers un organe sain, les ondes deviennent moins fortes pour ne pas affecter l'organe sain. Avant, quand l'onde passait, elle passait très fort. On pouvait dire qu'elle abîmait presque tout sur son passage. Donc d'ici 18 mois, nous allons ouvrir notre centre de radiothérapie à la PISAM pour avoir une offre complète dans le traitement du cancer.
Le cancer ne cesse de progresser dans le monde. En Côte d'Ivoire, le faible niveau des ressources des populations ainsi que l'insuffisance de couverture sociale entraîne une inégalité de l'accessibilité aux soins spécifiques. Plus de la moitié des patients atteints de cancer ici ne peut se soigner et ceux qui le peuvent n'arrivent pas toujours au bout de leur traitement. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Selon une analyse de la Société américaine du cancer publiée au début du mois, les cancers pourraient tuer 5,5 millions de femmes chaque année dans le monde en 2030. Seule l'éducation et la prévention pourront endiguer ce fléau, toujours d'après l'ACS, un fléau responsable en 2012 de la mort de 3,5 millions de femmes, en majorité dans les pays en développement. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la fréquence des facteurs de risque de cancer, à savoir l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'obésité ou encore le fait d'avoir son premier enfant à un âge tardif. Le cancer du col de l'utérus est responsable à lui seul de près de 66 000 morts par an. Là encore, il touche surtout les pays en développement, l'Inde notamment, avec 25% des cas. Selon la revue scientifique de Lancet, la vaccination aussi systématique contre les papillomavirus des filles dans les pays les plus pauvres au cours des 4 prochaines années pourrait prévenir 600 000 futurs décès par ce type de cancer. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mareike Haase de l'ONG Broad für die Welt pour l'interview. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet www.com/français. À la semaine prochaine.